Non, mais note aux architectes, toi, je sais pas c'est qui conçoit les environnements de travail, là, mais les néons, hein. Les néons, y'a personne qui aime les néons.
Les Neurodivertissantes, le podcast qui célèbre l'unicité neurodivergente et qui explose les préjugés pour un monde plus inclusif. Épisode 3, le fameux « Ça paraît pas » avec vos animatres Solène Métayer, Fran Delhoum et Mélissa Saint-Louis. Accrochez-vous, il y a de l'idée à la minute ici.
Bienvenue tout le monde à un nouvel épisode des Neurodivertissantes. Aujourd'hui, on parle du fameux « ça paraît pas » parce qu'on l'aime pas, puis on veut vous expliquer pourquoi. Comment est-ce que, dans le fond, on nous dit tout le temps que ça paraît pas, qu'on annonce qu'on est neurodivergente, puis on est vraiment tanné de ça. Donc d'ailleurs, ça paraît pas, ben Mélissa, tu veux nous prouver que tu es neurodivergente, explique-nous donc ça.
Ouais, ben écoute, souvent la neurodivergence peut venir avec beaucoup de clumsiness.
Maladresse pour les franco.
Ouais, merci beaucoup. Je cherchais le mot en français. On enregistre en batch, hein, nous autres, les épisodes. Fait que là, entre deux épisodes, j'ai tué mon clavier d'ordinateur à grands coups de verre d'eau. Fait que, bref, le bon côté de ça, c'est que maintenant, mon bureau est tout époussé. Il était dû, mais mon clavier, je pense qu'il est mort. Fait qu'il va peut-être faire dodo dans le riz ce soir, mais ça arrive souvent, ça, renverser des choses, tuer des ordinateurs avec un café, ouais.
Il est tombé. J'aurais jamais cru à accuser le colonel Moutarde avec le verre d'eau dans le bureau.
Oh, Seigneur! Fait que bref, c'était notre anecdote pour starter la patente aujourd'hui.
Oui, mais ça nous arrive tellement tout le temps de s'enfarger dans les fleurs du tapis. Puis moi aussi, je suis super maladroite. Mais on l'est toutes, je pense. C'est... Mais ça vient, dans mon cas, ça vient de l'autisme beaucoup parce qu'on n'est pas, on habite moins bien notre corps. Quand, oublie ça, danser au rythme d'une chanson, ça fonctionne pas, je l'ai pas, ça ne marche pas, je comprends pas comment faire. Que c'est pareil pour n'importe quoi, pour juste coordonner mes mouvements, oublie ça.
Ça me permet de...
Que je n'ai pas.
De faire un point sur l'intelligence, c'est ça. L'intelligence prend toutes sortes de formes, et dans mon cas, et donc dans notre cas, l'intelligence spatiale est un peu lacunaire, dira-t-on.
Légèrement. Donc, dans notre cas, ça paraît.
C'est ça. S'il y a un coin de bureau, t'es sûr que je me cogne dessus.
Fait que oui, ça paraît comme une Solène.
Bref, revenons à notre « ça paraît pas ». Solène.
Ben oui, en fait, on va peut-être revenir un peu sur la définition, même si on a déjà fait un épisode là-dessus. Fran, veux-tu te lancer?
Oui, ah ben écoute, je peux me lancer. Donc la définition du... Ben en fait, c'est pas tant de la définition du « ça paraît pas », mais on veut ramener la définition du masking, donc du fait de masquer notre neurodivergence.
Ouais, du camouflage, ou bien quel autre terme on utilise, d'être un caméléon, de... Il y a plein de termes pour la même chose, bien sûr.
Exact. Donc, interpellez-le comme vous voulez, mais c'est cette notion de diminuer, de retenir, de camoufler, de contenir certains traits pour mieux fonctionner dans des attentes neurotypiques, en fait. Donc, neurotypique, c'est aussi, on vous l'avait expliqué, mais en gros, c'est un petit peu ce sur quoi le monde est fait en ce moment. Donc, le cerveau qui fonctionne majoritairement comme la norme. Donc, le masking, le fait de masquer, c'est toutes ces stratégies qui vont être mises en place pour qu'on puisse passer inaperçu, incognito, dans un environnement qui n'est pas nécessairement adapté à nos traits, nos particularités, nos forces et nos défis. Est-ce qu'il y avait un mot à ajouter sur la définition, mesdames?
Non, moi j'achète.
T'achètes? Oui, vendu!
Mais peut-être souligner le fait que ça nous prend une énergie absolument folle de fonctionner comme ça. C'est pas naturel, c'est pas inné, donc on doit toujours travailler pour que ça y ait un filtre devant nous. C'est super exigeant, en fait.
Exactement. Donc, l'épisode de « Ça paraît pas », ben, c'est un peu ce qu'on veut faire avec vous, c'est explorer des exemples de ces moments où on masque, puis vraiment reprendre le pourquoi l'expression « ça paraît pas », qui est peut-être voulue bienveillante, qui est peut-être voulue pour rassurer la personne qui vient de te faire un dévoilement neurodivergent, ben finalement, elle
ouais, a... Elle a complimenté, en fait.
C'était
vu comme étant « mais ça paraît pas, c'est un compliment, en fait, que je te fais », puis ben, c'est pas une insulte d'être autiste, là.
Exact, c'est bienveillant, en bout de ligne dans l'intention, mais ça a des effets très pervers et pernicieux pour la personne qui reçoit ce commentaire-là.
C'est un peu comme si la personne te félicitait d'être aussi bonne à jouer ce rôle-là. Fait que, tu sais, en soi, c'est vrai que t'es bon à jouer le rôle, mais en même temps, c'est pas ça qui... C'est pas reposant, tu sais, fait que...
Ben oui, pis c'est pas toi, le rôle.
Non, c'est ça.
Puis on se rappelle que la neurodivergence, c'est un trait, c'est un fait, c'est qui tu, ça fait partie de qui tu es, tout comme on est blonde ou brune, fait que j'ai pas l'intention de me faire dire bravo t'es brune, donc ou bravo t'es pas blonde, tu sais.
Ouais. J'adore l'image.
Donc, en bref, est-ce qu'on voulait commencer peut-être par des petits exemples de stratégie de masking?
Oui, ben, tu sais, c'est ça, j'ai essayé de trouver un peu des exemples de masking à travers tout le spectre de la neurodiversité. Puis ça semblait être beaucoup plus prédominant dans trois catégories de neurodiversité, soit la douance, le TDAH, puis l'autisme. Fait que, parce que c'est des traits souvent qui vont être beaucoup plus prédominants dans la société, dans la façon dont on est, dont on agit avec les personnes. Puis c'est dans le but vraiment de ne pas se faire rejeter, dans le fond, par nos pairs, là. Oui, Solène?
Ah, c'est moi. Mais j'ai besoin de faire un commentaire éditorial parce que, effectivement, tu dis que c'est prédominant. Puis bon, la petite étudiante interminable que je suis, qui est encore à l'université, qui ne l'est plus, mais qui va pouvoir y retourner, fait juste dire que je pense que c'est surreprésenté en termes de douance, autisme, TDAH, parce qu'il y a plus d'études.
Probablement, oui.
C'est ça, je pense que c'est important qu'on le dise parce que il y a plein de réalités neurodivergentes qui sont sous-représentées en termes de recherche, d'études et de vulgarisation ou d'accessibilité. Donc, le masking concerne tout le monde, mais est beaucoup plus documenté, en effet, pour ces trois grands profils cognitifs-là.
Merci.
Voilà, je te passe la poque.
Non, mais c'est bon que tu... parce que, tu sais, des fois aussi, tu sais, je peux exprimer quelque chose, puis finalement, tu sais, c'est... Je ne l'ai pas exprimé jusqu'au fond de ma pensée, puis ouais. C'est le but étant qu'on se complète comme ça, parce que des fois, ouais. Ben, on part dans un chemin de pensée, puis on peut élaguer certains éléments. Fait que oui, c'est ça, en faisant la recherche, c'est ça que j'ai trouvé comme étant le plus facile à trouver comme information, mais ça ne veut pas dire que les autres ne masquent pas. Puis tu sais, on parle aussi du syndrome G de la Tourette, où évidemment, ils voudraient pouvoir masquer, mais c'est quasi impossible là, d'essayer de masquer des tics, là, quitte à être vraiment détrimental pour ces personnes-là. Fait que, tu sais, dans le fond, par rapport à ça, tu sais, je sais pas, Solène, si tu voulais commencer à nous parler un peu plus du masking au niveau des personnes autistes. Je sais qu'il y a beaucoup de documentation là-dessus. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu? Comment est-ce que tu l'as vécu avec les personnes que tu as rencontrées?
Ben, c'est sûr que chez l'autisme, on essaie d'imiter, en fait, nos pairs. C'est super difficile. En fait, c'est comme ça qu'on apprend que la personne neurotypique va apprendre à fonctionner au niveau social. Ça va être en imitant les autres puis en copiant un peu ce qui se passe autour d'elle. Nous, on essaie de faire ça, mais ça fonctionne pas super bien tout le temps. Mais c'est comme ça qu'on va apprendre. Les filles, surtout, on va apprendre à masquer parce que c'est ce qui est attendu socialement. Puis on est meilleur à ce petit jeu-là. On va essayer de faire en sorte que ça paraisse pas. Parce qu'on se rend bien compte hein, qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, qu'on est différent des autres, qu'il y a un comportement qui est attendu de nous et qu'on n'y arrive pas. Donc, on va essayer de le faire. On va essayer d'atteindre cette image-là, mais c'est pas du tout ce qu'on ressent. Puis souvent, on va y aller avec... on va faire quelque chose, mais sans trop savoir si c'est vraiment vrai, si c'est pas vrai. On va y aller par essai-erreur. On va pas toujours être convaincu du résultat. Mais c'est super... c'est le seul moyen qu'on a, en fait. C'est par imitation. Dans mon cas, j'ai appris à masquer beaucoup parce que... Ben, j'ai étudié en théâtre pour commencer. Ça a été vraiment important dans mon cheminement d'apprendre à jouer, d'apprendre quel geste voulait dire telle émotion, d'apprendre à décoder ce qui se passait sur une scène, ce que les gens faisaient. Ça a été d'un enrichissement absolument effroyable. Puis, ça a été majeur dans mon cheminement. Et ça, tu voulais dire quelque chose?
Oui, mais je voulais juste dire, parce que je trouve ça fascinant, tu sais, dans ton cas, tu as décidé d'aller faire des études en théâtre avant d'avoir ton diagnostic, fait que c'était comme si intérieurement, tu savais que tu avais comme besoin de ça, peut-être?
Oui, ben oui, parce que, écoute, j'étais malade à l'idée d'aller devant une classe. J'étais physiquement malade quand je devais faire des présentations orales, puis je me suis dit, ben, le meilleur moyen... Ça a été un peu ma stratégie tout le long de ma vie. Ça a été de me dire, ben, le meilleur moyen d'atteindre ce que je veux, c'est de foncer, puis tant pis si j'ai peur. Fran?
Oui, ben non, mais je veux renchérir. Je pense que c'est ça. C'est tellement inconscient comme processus, mais en bout de ligne, on construit notre identité sur ce masking-là parce que moi aussi, ça a orienté mes choix d'études. J'ai été en relation d'aide parce que c'est ce qu'on me disait qui était valorisé, cette interaction avec l'autre, cette bienveillance de l'autre. Donc, Solène, toi, ça a été le théâtre. Moi, ça a été la relation d'aide. Mais en bout de ligne, je suis la personne que quand il faut que je soutienne quelqu'un par le toucher, il faut que je me dise dans ma tête, « OK, Fran, prends ta main gauche, lève ta main gauche, pose ta main gauche sur l'épaule de l'autre personne, parce qu'on sait que l'intervention de proximité fonctionne bien, alors que pour moi, ça fonctionne pas du tout. Au contraire, ça m'envahit. » Donc, je trouve ça absolument, c'est plate à dire, mais fascinant de nous voir aller sans avoir eu l'information au préliminaire.
Oui, mais c'est justement, on essaie des affaires, puis c'est tellement pas ce qui nous est naturel à la base. Ça nous prend une énergie folle. Moi, en théâtre, j'étais pas si bonne que ça. Là. Ben, il faut dire que j'étais pas en jeu. J'étais en critique et dramaturgie. Donc, j'apprenais à deviner, en fait, ce qui se passait. Et puis, mais en jeu, j'étais pas si bonne que ça. Puis ça a été un méga apprentissage. C'est là que j'ai commencé à être bonne devant une salle, à pouvoir parler en public, puis à savoir m'exprimer un peu plus avec les gens. Mais si j'avais pas eu ça, j'aurais pas été si habile à masquer, justement. Donc, c'est sûr que c'est un avantage. Puis en même temps, je sais pas, parce que ça me prend encore plus d'énergie.
Exact. Puis moi, je regarde, tu vois, l'avoir étudié en relation d'aide, justement, dans mon évaluation, c'est ce qui a été évaluation par rapport à mon profil neurodivergent, c'est ce qui est ressorti, c'est que j'ai développé une expertise de fine pointe à détecter, décoder les visages des gens. Je me cherchais une théorie folle pour être capable de lire les gens constamment. Et en bout de ligne, je me stimule quasiment intellectuellement en analysant toujours le non-verbal des gens, la synergologie, tout ça, parce que c'est un défi. Puis, au final, c'était une stratégie de masking, mais qui s'est imbriquée dans tout mon fonctionnement au point d'en être indissociable aujourd'hui.
Oui, mais j'ai appris aussi... Tu sais, c'est quand même drôle parce que j'ai étudié en théâtre sans que rien me mène à ça. Moi, à la base, je m'en allais en ingénierie. Tu sais, c'est vraiment à l'opposé de mon cheminement.
Méchant virage!
Ah oui, j'ai tout de suite pour être ingénieure, finalement, je me suis ramassée en théâtre. Tu sais, vraiment, ça a été un coup de théâtre, c'est le cas de le dire. Puis après, quand j'étais rendue en gestion, j'ai suivi des cours pour apprendre à parler en public, pour improviser sur, je sais pas moi, ton employé vient d'avoir un accident de travail, comment est-ce que tu l'annonces à l'équipe? Puis, j'ai suivi des cours pour ça, je me suis forcée à ça. Puis, je sais pas si, Fran, c'était ton cas à HEC, mais HEC est beaucoup basé sur, on fait des travaux d'équipe. Donc là, le premier cours, on est carrément à la chasse. On doit repérer les bonnes personnes qui vont être des bons coéquipiers, donc on se présente, tu sais, on doit bien paraître, on doit bien se présenter, on doit repérer les individus qui ont l'air intéressants, qui ont l'air de bien travailler, qui ont l'air de fitter avec nous autres. Et moi, à chaque début de session, je faisais une dépression, je savais pas pourquoi, mais bon, j'exagère, c'était pas forcément une dépression, mais j'étais dans un down, mais incroyable après chaque début, puis mon médecin était comme, c'est peut-être saisonnier, tu sais. Non, c'est pas ça, c'est pas la saison, je sais pas c'est quoi, mais c'était ça. C'était que je devais jouer ces premières séances de cours-là, et c'était l'enfer. Par contre, ça marchait.
Ah ouais. Mélissa, toi?
Ben, tu sais, c'est un peu le... Ce qui est le fun de voir là-dedans, c'est ça, tu sais, mettons, Solène qui a, de façon innée, découvert qu'elle avait besoin de ça, tu sais. Pour beaucoup de femmes ayant les évaluations, les diagnostics beaucoup plus tard à l'âge adulte parce que les femmes sont meilleures à masquer. C'est pas une question de dire on est meilleure, mais c'est juste dans la société, c'est comme ça. On est groomé comme ça, si je peux dire.
Oui, ça mais fait aussi, que... si je peux t'interrompre, oui. Il n'y a pas juste ça, c'est que aussi le rôle de la femme en général, puis on met ça super gros parce que c'est un méga préjugé, mais que les femmes sont plus discrètes, vont être plus en retrait, oui. Qui vont... Donc ça aide, le rôle social attendu de la femme fait en sorte qu'on va plus passer inaperçu également.
Ce sera tellement un épisode en soi, ça.
Ah, j'ai hâte de cet épisode-là.
Mais on te repasse la poque, Mélissa.
Non, ben c'est bien correct, là, parce que c'est sûr que tout va se recouper là, quand on en parle de tout ça, mais ayant justement ces évaluations-là à l'âge adulte, ça fait qu'il y a beaucoup de déconstruction à faire sur, OK, qu'est-ce qui est moi? Qu'est-ce qui était du masking? Puis d'essayer de trouver cette quête identitaire-là, de dire, bon, ben moi, au niveau de ma survie énergétique, qu'est-ce que je dois continuer de faire, puis qu'est-ce qui est moi, puis qu'est-ce qui n'est pas moi, puis comment est-ce que j'ajuste tout ça. Tu sais, par exemple, quand on parle à des profils qui sont en douance, on va parler beaucoup du faux self. Fait que cette création d'un persona-là qui nous représente pour plaire aux yeux de l'autre, fait que souvent, ça va créer justement ce dédoublement identitaire-là, où ce qu'à un moment donné, tu sais plus c'est qui toi, puis c'est qui le faux self. Quand tu parles d'une personne avec un TDAH, tu vas parler beaucoup des personnes qui ont des espèces de personas différents selon la situation. Fait que tu vas voir comme le clown de la soirée, ou tu vas voir l'hyper-perfectionniste pour compenser. Fait que après ça, de retrouver t'es qui à l'âge adulte, c'est extrêmement difficile.
Oui, ben en fait, c'est drôle parce que ça me fait penser à quand j'ai eu mon diagnostic. Il y a un test super connu en ligne qui est quand même un test internet, donc ça vaut pas grand-chose, mais pareil, on le fait tout. C'est l'Aspi-Quiz. Puis l'Aspi-Quiz disait que j'étais neurotypique. Alors que je suis absolument pas. Je suis très, 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 très autiste. Et je me suis longtemps demandé comment ça, parce que c'était quand même bizarre. Tu sais, un test qui est censé être relativement fiable, même si c'est un test internet, me disait neurotypique. Puis en fait, c'est que justement, je savais plus qu'est-ce qui était moi, qu'est-ce qui était l'espèce de personnage voulu que je m'étais inventé. Un exemple me revient, mais une des questions, c'est est-ce que ça vous dérange que quelqu'un vous suive sur la rue, soit proche de vous quand vous marchez sur la rue? Puis j'ai répondu, ben ça me dérange pas, y a pas de problème. Jusqu'à ce que ça arrive, puis que je réalise, hey, mais je suis pas bien en ce moment, là, j'aime pas ce moment. Puis que je me dise, ben non, ok, finalement j'aime pas ça. Puis mais c'est comme ça pour plein d'exemples. J'arrêtais pas d'avoir des moments où est-ce que je sais plus si c'est moi ou si c'est mon personnage. C'est sûr que ça m'influence à un moment, là, tu sais, je suis plus sociable que je l'étais, puis c'est normal, ça, j'ai travaillé là-dessus, mais juste, quelle est l'espèce de limite entre les deux est pas toujours claire.
Exact, puis, tu sais, moi, l'Aspi-Quiz, bon, ben, moi, il était très cohérent avec ma neurodivergence, il n'y a pas de problème, là. Ça a vraiment pas ressenti, mais je suis... Moi aussi, mêlée des fois dans mes personnages, j'ai deux personnages, j'ai mon espèce de personnage un peu l'experte, là, je sais tout de service, qui a toujours des beaux grands mots, puis ça aussi, ça va faire rire plein de gens qui me connaissent, parce que les gens vont souvent me dire, hey, mon Dieu, t'as tellement l'air sûr de toi en expression orale, c'est tellement intelligent, c'est ce que tu peux dire, mais souvent, les gens vont aussi penser que je suis snob en contrepartie. Puis j'ai la persona clown de service, où là, je suis comme, en cas de doute, fais rire les gens. Fais rire les gens, c'est la meilleure stratégie. Ils vont pas pouvoir rire de toi s'ils rient avec toi. Donc, moi, je me suis pris là-dedans beaucoup, puis ce qui m'a permis de mieux discerner quand est-ce que je suis en persona, quand est-ce que je suis moi-même, c'est à quel point je suis épuisée après avoir agi, masqué comme ça. Mais j'ai encore de la misère à trouver ce qui m'appartient, là, puis qu'est-ce qui est réellement moi là-dedans.
Non, mais t'as tellement raison. Moi aussi, j'ai fait des dépressions chroniques au point parce que j'étais toujours en représentation. Je travaillais avec un téléphone dans la vie. Avec moi, un téléphone, là, on est incompatibles, le téléphone et moi. Puis pourtant, je travaillais avec ça quotidiennement. Je parlais quotidiennement à des gens. J'étais dans un open space, avec des néons. Fait que là, oublie ça. Là, c'est toutes des choses qu'aujourd'hui, je sais que je suis pas capable. Ben, je prenais ça comme étant naturel, qu'il fallait que je le fasse, puis après ça, je m'étonne que j'étais épuisée, puis que j'étais en dépression tous les 6 mois, hein, tu sais, c'est... Il y a un coût à tout ça, il y a un coût solide en plus.
Non, mais note aux architectes, toi, je sais pas c'est qui conçoit les environnements de travail, là, mais les néons, là. Les néons, il y a personne qui aime les néons. Je vous le dis, c'est un ennemi commun. Je comprends pas. Bon, ok, l'économie, là, mais mettez... À la limite, si vous mettez une lampe pour qu'on ait une alternative, n'importe qui va être heureux de pouvoir éteindre les foutus néons éventuellement.
Oh oui, genre les Dell, ça existe.
Oui, mais d'ailleurs, quand je suis arrivée à mon dernier emploi, c'est carrément ça. Une de mes mesures adaptatives était d'avoir une lampe alternative.
Exact.
Une autre lampe que le néon, puis mes collègues étaient contents, tu sais. C'était pas juste pour moi, les autres aussi s'en servaient.
Ouais, Mélissa, t'allais dire?
Ah non, mais non, moi je vous écoute, je trouve ça vraiment fascinant, tu sais, parce que chaque personne, tu sais, quand on dit la neurodiversité, elle est aussi diverse que le nombre de personnes qui les composent, tu sais. Je pense que c'est ça qui rend ça encore plus difficile, parce qu'en plus d'essayer d'apprendre à te connaître dans tout ça, il faut que tu essaies de trouver après ça dans tes façons de t'adapter, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, comment l'apporter pour que ça ne soit pas un caprice non plus, tu sais, de se dire, bon, ben, tu sais, tu as passé ta vie à te masquer, puis là, tu dis, OK, bon, ben, pour sauvegarder mon niveau d'énergie dans telle situation, voici ce que j'aurais besoin de faire pour masquer ou ne pas masquer. Pour ne pas masquer. Puis là, ben, est-ce que j'ai besoin de mesures adaptatives ou non? Ou est-ce que j'ai juste besoin d'avoir une conversation franche avec les personnes puis de savoir que je suis dans un environnement avec une assez grande un bon filet de sécurité psychologique pour dire, ben, je peux émettre le fait que, peut-être que, tu sais, mettons, dans le cas d'une personne qui a un TDAH, elle a besoin de fidgeter pendant un meeting juste pour être à l'écoute de ce qui se passe, tu sais. Alors que si elle ne mentionnait pas, tu sais, elle n'a pas besoin d'accommodement, elle a juste besoin de fidgeter si elle veut puis de ne pas se faire juger. Alors qu'avant, en meeting, elle allait essayer de rester stoïque à sa chaise, de ne pas bouger, de rester concentrée. Puis c'est ça qui est épuisant, tu sais, c'est toute la notion d'essayer de compenser au niveau des fonctions cognitives pour avoir l'air normal quand il y a un exutoire qui est nécessaire. C'est comme, tantôt j'ai effleuré le sujet du syndrome Gilles de la Tourette, c'est de retenir un tic. Ça se fait pas. Il compare ça au fait d'avoir une envie de te gratter qui, tu sais, une piqûre de maringouin de près, t'en peux plus, là, il faut que tu te grattes, là, mais tu ne peux pas. Ben, c'est la même chose pour quelqu'un qui a ce syndrome-là, d'avoir essayé de retenir un tic. Ben, sauf que dans ces cas-là, tu sais, c'est quelque chose qui paraît beaucoup plus, tu sais, un tic. Ben, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, ça va paraître beaucoup. Mais quelqu'un, par exemple, qui fidget ou qui va faire du tapping sur ses joues pour se regrounder, des choses comme ça. T'sais. Bref, nous autres, on a la caméra hein, pendant qu'on se parle. Fait que on se voit bouger pas mal.
De quelqu'un ici.
mais tout ça, t'sais, c'est pas normalement accepté dans un meeting de faire ces choses-là, d'avoir son petit jouet ou de se taper la joue, de shaker de la patte. Puis de retenir tout ça, ça prend une énergie de fou.
Mm-hmm. Oui, ça fait penser à notre réunion de mardi dernier où est-ce que je suis arrivée en vous disant tout de suite, je suis en surcharge, j'ai travaillé toute la matinée, ça va pas, je parlerai pas beaucoup, puis vous saviez tout de suite que ben c'était correct, que j'allais pas beaucoup parler, vous m'avez accueilli là-dedans, vous avez mené la conversation, moi je vous écoutais, c'était tout ce dont j'étais capable, puis c'était normal, c'était correct, alors que dans une réunion standard, ben, j'aurais rien dit, puis j'aurais fait du mieux que je pouvais, mais ça aurait été un peu tout croche, j'aurais peut-être perdu patience, j'aurais été trop directe, puis surtout, j'aurais été incapable de faire quoi que ce soit après, alors que en étant avec vous autres, puis en ayant cet espace-là pour me « régénérer », entre guillemets, ben, j'ai pu réavoir de l'énergie, puis le reste de la soirée s'est bien passé, tu sais. Donc, c'est d'avoir cet espace. Donc, ça paraît pas, ça revient au sujet de l'épisode, c'est souvent ça, c'est qu'on va ne pas le dire, puis c'est, vous voyez pas, c'est comme un canard qui navigue sur l'eau, tu sais, on voit pas les petites pattes en dessous qui pédalent comme des fous, que ça paraisse pas, justement. Tu sais, ça demande de l'énergie, c'est l'énergie que ça va prendre, que les gens verront pas, puis c'est normal qu'ils le voient pas, je veux dire, c'est dans notre tête.
Un exemple flagrant, ce qui me concerne, c'est l'organisation. Les gens me perçoivent ultra organisée, à tel point que quand je fais mes évaluations de développement professionnel avec mon patron, il va me dire « arrête de te mettre l'organisation comme objectif, tu gères ». Parce qu'en fait, je surcompense tellement, je fais tellement des listes de listes, des structures de structures, que les gens me perçoivent comme étant quelqu'un d'ultra carré, organisé, qui sait où ce qu'elle s'en va, mais en dedans de moi, là, je peux-tu vous dire à quel point j'ai l'impression, tu sais, le petit diable de Tasmanie, là, qui spinne sur lui-même au point qu'on le voit pas, là, mais qui fait du surplace, là. Ouais. Même Christy d'affaires, en ce qui me concerne, là, l'organisation, ça me brûle, ça m'épuise, puis il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée de me mettre responsable de 8 agendas, parce que ça fait partie de mes tâches. Hey, mon Dieu, je peux-tu vous dire à quel point je suis rendue anxieuse de ça, puis c'est correct, je me développe, j'apprends, puis en bout d'un, je suis fière chaque fois que je réussis, mais c'est un exemple vraiment flagrant qu'on me perçoive ultra organisée, alors qu'en dedans de moi, je veux me décomposer au point que des fois, j'ai la petite lame qui coule sur la joue parce que je suis juste en surcharge cognitive de m'organiser, mais personne ne le voit. Puis quand j'essaie de demander de l'aide, on va me dire « ça paraît pas, parce que j'ai donc des stratégies ».
Mm-hmm. Ouais, mais justement, ça paraît, tu sais, quand tu nous en parles en arrière-scène, là, on le voit que t'es pas si organisé que ça, que t'es en train de surcompenser, puis c'est souvent ça, faut avoir accès à cette espèce d'arrière-scène où est-ce qu'on voit les choses telles qu'elles sont, faut pas oublier, on est toujours en représentation qu'on fait du masking.
Exact. Mélissa, tu sembles pensive.
Ouais, non, mais c'est, tu sais, ça fait beaucoup réfléchir tout ça, parce que justement, tu sais, cette notion-là de « ça paraît pas », ben ça paraît pas jusqu'à temps que t'es plus capable, souvent, tu sais.
Ouais.
Fait que, oui, tu sais, si je reviens un peu au premier épisode qu'on a enregistré, tu sais, je disais que j'étais une maman d'un enfant, une belle petite fille de 5 ans, tu sais, mais honnêtement, jusqu'à temps que j'aie ma fille, non, ça paraissait pas. tu sais, la charge cognitive que j'avais à gérer dans mon foyer, dans mon couple, puis dans mon travail. Puis à ce moment-là, mon travail, pour moi, était beaucoup plus facile. C'était vraiment bien correct, tu sais. Mais quand j'ai eu ma fille, puis tu rajoutes la charge mentale de gérer un enfant, de gérer, bon, ben les problèmes de santé qu'elle avait à ce moment-là. Plus après ça, ben j'avais eu... un changement de poste où je travaillais, qui était comme une promotion. Puis là, on rajoutait beaucoup, justement, des tâches d'organisation puis des tâches de structuration de l'entreprise, tout ça. Des choses que j'aimais beaucoup parce que c'était des beaux défis. Sauf qu'à un certain point, j'étais rendue au point où, ayant pas, justement, cette évaluation-là, je comprenais pas que tout d'un coup, mon cerveau, c'est comme s'il avait atteint sa limite. Puis je me disais, ben j'ai jamais vécu ça, moi, atteindre une limite de cerveau, là, comme... Tu sais, j'ai toujours flyé à 100 000 à l'heure, puis il n'y en avait pas de plafond, là. Moi, je pouvais partir jusque dans la prochaine galaxie, là, tu sais. Puis là, tout d'un coup, j'étais comme, OK, mais comme ça ne marche plus, là, j'oublie. J'essayais de débarrer ma porte de maison avec mon piton de char.
Hey, j'ai déjà oublié que j'étais au téléphone pendant que j'étais au téléphone. Je te comprends tellement, là.
Ah ouais, tu sais, cette espèce de zoning out, de tout d'un coup, comme toute semaine. Puis là, tu dis, OK, ben mommy brain, tu sais, mais à un moment donné, mommy brain, il s'en va pas. Puis, tu sais, puis là, tout, c'est là que tu commences à voir tout partout ce que tu compenses, puis où ce que tu vas compenser sur tes émotions, sur ta capacité à retenir l'information, ta capacité à être fonctionnelle, tu sais, rendu au point... tu sais, à un certain moment, sachant pas ce qui se passait, puis j'avais tellement poussé la machine, parce que j'étais habituée de toujours pousser cette machine-là à 100 000 à l'heure, bien, j'étais rendue au point où j'avais de la misère à faire une phrase qui faisait du sens, tu sais. Wow. Cette espèce de tourbillon-là de mots et d'idées dans la tête, puis qui doit passer par cet entonnoir buccal-là pour faire des phrases, tu sais, c'était comme un maelstrom de mots, puis là, c'est jamais un bon mot qui sortait parce que c'était juste rendu too much, tu sais. Fait que quand que tu le sais pas, puis que t'as passé ta vie à te créer des mesures adaptatives, puis dès qu'à un moment donné, tu pognes quelque chose qui fait que ta vie change, bien souvent, à ce moment-là, t'es vraiment désemparé, puis quand on revenait au fait, justement, que les petites filles, bien... De un, c'est plus calme. De deux, il y a une plus grande adaptation, mais il y a aussi un fait qu'au niveau diagnostic, vu que les petites filles dérangent pas de par la façon dont ça va se manifester. Tu sais, par exemple, on a cette idée-là que les TDAH, c'est le petit gars hyperactif dans le coin qui arrête pas de sauter partout. Mais la petite fille, cette hyperactivité-là, souvent va se refléter dans sa tête, dans la façon dont les images vont, dont les mots puis les idées vont s'entremêler puis aller à une vitesse fulgurante. Ben, ça dérange personne, ça, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, là. Tu sais, mais il y a personne qui va le voir puis il y a personne qui va le savoir.
Ouais. Mais là, j'ai encore besoin de faire mon commentaire éditorial, là, je m'excuse.
Ben vas-y.
Non, mais c'est parce que je trouve ça important qu'on le dise, on parle beaucoup de la scission petite fille, petit garçon, par exemple, mais je tiens à dire que ça va vraiment au-delà de ça, encore une fois, c'est ce qui est documenté, on va au-delà de la notion de binarité aussi. Chacun va avoir ses propres manifestations, mais il y a comme des attentes stéréotypées dans la manifestation de la neurodivergence qui est très binaire pour le moment. Donc, je pense que c'est important de le nommer. Sans vouloir considérer seulement cette binarité-là, il y a une documentation qui est encore dichotomique comme ça.
Oui, parce que c'est tellement récent comme science, là, tu sais. Excuse-moi, Solène, mais c'est juste parce que, tu sais, les études pour le TDAH, par exemple, ont été menées auprès de garçons blancs de classe moyenne ou plus favorisée dans les années 90. Puis les symptômes plus liés à la femme puis à la fille, on parle plus des années 2008-ish, là, qu'on a commencé à s'intéresser beaucoup plus à ça. Fait que c'est très récent. Fait que non, on peut pas avoir le spectre complet. Là, en ce moment, on est vraiment en mode binaire parce que c'est trop nouveau comme science, là.
Oui, c'est la même chose pour l'autisme. Les critères diagnostiques dans le DSM, donc la Bible des diagnostics en psychiatrie, les critères sont pour les garçons blancs, probablement, tu sais, donc. Moi, je suis non seulement une femme, mais je suis adulte, donc c'est sûr que ces critères-là ne me conviennent pas, je ne me reconnais pas dans le DSM. Puis c'est une des raisons pour lesquelles mon diagnostic a été si long à obtenir, c'est que j'allais dans le DSM, j'étais « mais c'est pas moi, puis pourquoi est-ce que j'irais chercher un diagnostic d'autisme quand ça me représente pas? »
Je pense que ça parle aussi beaucoup de notre fonctionnement de société. Là, on est encore beaucoup dans des cases, alors qu'on a vraiment plusieurs continuums qui cohabitent. On a les continuums au niveau de l'identité, de genre, au niveau de l'orientation, au niveau de la neurodivergence, au niveau de tout, en fait. Et c'est, je crois qu'on a un changement de perspective à faire comme société, et ce sera probablement le sujet d'un épisode, parce qu'au travail, c'est très pertinent ce que j'exploite là, mais on doit apprendre à réfléchir en complexité, apprendre à réfléchir en continuum et non moins en cases, même si je sais que ça paraît complexe pour une organisation parce que ça demande une agilité vraiment, vraiment élevée.
Oui, mais il y a une intersectionnalité de tout ça aussi. C'est pas juste en termes de genre. Ben, même là, le genre, souvent, les autistes ont une pluralité de genre assez incroyable. Mm-hmm. C'est rare qu'on ait dans la forme binaire en termes d'autisme. Et c'est sûrement le cas pour plusieurs neurodivergents, mais aussi c'est la couleur de la peau, ça peut être... il y a tellement... puis il y a toutes les comorbidités aussi qui viennent avec ça, tu sais. Donc, il y a une intersectionnalité qui est assez impressionnante et qui fait en sorte qu'on a une pluralité de réalités à tenir compte aussi.
Ouais. Si j'ai envie de nous ramener là, quand même à notre sujet de « ça paraît pas » parce qu'on a envie de vous parler un petit peu, en bref, ce à quoi on veut vous outiller... C'est face à un dévoilement d'une personne neurodivergente, que ce soit dans votre cercle proche ou que ce soit au travail, en contexte vraiment de relations professionnelles. Le « ça paraît pas » que vous voulez un compliment, que vous voulez bienveillant, ben, il est en train de confirmer le « ça paraît pas selon mes normes et mon cadre de référence, donc tu es fonctionnel selon ce que moi j'attends de toi. » Et c'est une forme d'invalidation. De la beauté de l'identité neurodivergente, finalement.
Oui, puis souvent, c'est quand on a notre diagnostic, on se rend compte que, mais je suis pas obligée d'avoir cette norme-là à atteindre. Donc, moi, je sais que dans mon cas, quand j'ai eu mon diagnostic d'autisme, j'ai comme diminué toutes mes attentes parce que j'étais, mais qu'est-ce qui me demande de l'énergie? Qu'est-ce qui m'en demande pas? Je le sais pas. Et mon diagnostic a été l'occasion, justement, de faire en sorte que ça paraissait soudainement que j'étais autiste parce que je me donnais plus la pression d'aller atteindre des normes qui étaient inatteignables pour moi.
Exact. Mélissa, tu as envie de nous parler un petit peu, en contexte professionnel, justement, de comment une personne au RH ou un gestionnaire pourrait se comporter ou les petits cues qu'on pourrait donner à nos auditeurs par rapport au dévoilement?
Oui, c'est ça. Ben, tu sais, par rapport au dévoilement, je pense que ça commence toujours par le fait de remercier la personne pour la confiance qu'elle donne de le dire, parce que c'est pas facile de dire ça. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de tabous associés. Puis c'est des tabous qu'on essaie justement de défaire avec ce podcast-là, mais de l'accueillir, de remercier la personne, puis de lui demander, bon, ben, tu sais, tu te mets en position d'écoute, puis tu sais, ça veut dire quoi pour toi, ça? Qu'est-ce que, comment tu vis ça? À quoi est-ce que tu t'attends comme de ma part, comme gestionnaire? Est-ce que tu es en découverte de tout ce que ça veut dire? Est-ce que tu sais exactement ce dont tu as besoin? Comment est-ce que je peux t'épauler? Parce que quand tu dis « Ah, ben écoute, ça paraît pas », c'est comme si tu disais à la personne « Ben écoute, jusqu'à présent, tu as très bien fonctionné, fait que j'imagine que ça va bien, fait que tu sais, j'ai pas grand-chose à faire. » Alors que la personne, si la personne, tu sais, inconsciemment, tu lui dis « Ben, ça paraît pas », elle va se dire « Bon, ben OK, fait que j'ai pas de légitimité, parce que ça paraît pas à demander des accommodements ou à demander juste au moins d'être compris par la personne. Si j'ai, par exemple, si la personne a des difficultés à gérer ses émotions, si la personne a de la difficulté à rester, comme on dit, là, stoïque pendant des rencontres, puis de pas se faire juger, parce que souvent aussi, ça peut venir avec la notion de progression dans l'organisation, c'est qu'on a une vision très stéréotypée de ce qui est le leadership et de ce qui est attendu en organisation. Puis ces stéréotypes-là sont souvent très loin de la réalité d'une personne neurodivergente. Puis ça ne veut pas dire que la personne neurodivergente ne sera pas en mesure d'atteindre des très hauts standards en termes de leadership, mais à sa façon, puis selon aussi d'autres standards de leadership qui sont moins connus, mais qui sont beaucoup plus efficaces. Fait que tout ça pour dire que c'est vraiment une question d'ouverture, puis de questionner la personne, puis de juste, tu sais, l'accueillir dans ça pour qu'elle se sente à l'aise de soit de découvrir ou soit de demander ce dont elle a besoin.
Et puis ça veut dire souvent que quand on reçoit une confidence comme celle-là, c'est que ça nous donne l'espace pour découvrir ce qu'est réellement la personne. Parce que jusqu'à maintenant, elle a eu des... elle a performé pour que ça paraisse pas, justement, mais... Là, de laisser l'espace pour que, ben OK, je vais découvrir qui tu es réellement et qu'est-ce que tu es sans ce masking-là qui était entre les deux individus, finalement. C'est un filtre.
Oui, puis j'ai envie de vous dire que peu importe la personne qui est devant vous, là, dévoilement, pas dévoilement, neurodivergence, neurotypie, à partir du moment où on change notre perspective de... Au lieu de dire, bon, ben qu'est-ce que tu as besoin pour combler ton déficit, mais plutôt d'aller vers... Dans quel environnement, toi, tu te sens au meilleur de tes capacités? Qu'est-ce qui fait que tu peux t'épanouir? Ben, déjà là, on vient de changer, on vient de shifter dans la façon d'aborder un individu et d'aborder le travail, en fait.
Oui, tu me voles les mots de la bouche, tu sais, parce que justement, c'est... toutes les personnes neurodivergentes, tu sais, c'est que la... Puis, tu sais, on en a parlé dans l'épisode du glossaire, mais c'est cette notion-là d'une très grande hétérogénéité dans les forces, puis dans les... Bon, j'ai pas d'autres mots qui viennent en tête, mais tu sais, les faiblesses, par exemple, là.
Les défis,
ouais. Les défis, merci. fait que, tu sais, souvent, on va avoir ces personnes vont avoir... On va avoir des très hauts spikes en termes de force, puis des défis beaucoup plus grands sur certains autres aspects comme l'organisation, comme la gestion, par exemple, des émotions, la gestion des priorités, etc., mais de très grandes forces en termes de créativité, en termes de résolution de problèmes, en termes de design. Fait que d'aller voir, bon, mais avec cette personne-là, non seulement est-ce que ta compensation au niveau de tes défis sont absolument nécessaires dans ton emploi, ou est-ce qu'on peut réorganiser le poste pour avoir accès à tes forces, puis que toi, tu te sentes absolument accompagné là-dedans, puis que tu sentes que tu peux t'épanouir dans ton emploi, puis qu'en plus, comme employeur, je veux dire, c'est zéro philanthropique que d'avoir accès aux plus grandes forces de quelqu'un, puis d'en faire bénéficier ton organisation, tu sais.
C'est une stratégie en soi.
Ouais.
Oui, exact. Puis un point qui est à ne pas oublier, c'est que, surtout au travail, on n'a pas accès à l'entièreté de la vie de la personne. C'est-à-dire que au travail, tu peux avoir quelqu'un qui est super performant, puis le soir, elle roule en boule dans son lit, puis elle shake tellement elle est à bout. Fait que le but d'avoir des mesures adaptatives, c'est aussi ça, qu'il n'y ait pas cet espace-là où est-ce qu'elle va shaker dans son lit en roulant en boule, que le travail lui permette d'être constamment dans sa zone de génie, puis qu'elle puisse s'épanouir dans toutes les sphères de sa vie, finalement. C'est de s'assurer que le travail ne tire pas l'entièreté du jus et de l'énergie de cet individu-là.
Oui, je pense qu'on revient à la notion de batterie, qui est une image, je crois, simple, mais efficace. C'est comme le masking, il sollicite toujours un petit niveau d'énergie comme passif en background, là. C'est un peu comme un stress chronique, finalement. Donc, de diminuer, grâce à des mesures adaptatives, les situations soit de handicap, soit les situations où on est en train de mobiliser l'énergie qui est un peu inutilement dépensée, ben juste ça va rééquilibrer, puis là, on va avoir plus d'accès à nos ressources, plus d'accès à nos forces pour les mettre au profit de l'organisation puis de notre équipe, finalement.
C'est ça. Puis, tu sais, en termes d'organisation, moi, ma grande question du moment, puis une des raisons pour lesquelles, tu sais, je m'intéresse autant à ça, puis je m'intéressais beaucoup à faire le podcast, c'est que on arrive à un moment où, tu sais, comme on disait, là, surtout pour les femmes, les diagnostics sont assez récents. Pour les hommes, c'est, dans l'histoire de l'humanité, c'est méga récent, là, c'est arrivé comme là, une fraction de seconde, tu sais. De se dire que ces personnes-là doivent vivre avec le fait qu'en organisation, ils masquent, qu'ils n'ont pas eu le droit d'être eux-mêmes parce que c'était mal perçu ou parce que les gens ne comprenaient juste pas. Tu sais, je veux pas mettre la mauvaise foi là-dedans, c'est juste des préjugés des fois parce que on vit comme ça, notre cerveau fait des raccourcis pour essayer de comprendre le monde dans lequel on vit. Mais tous les enfants en ce moment dans les écoles qui ont des diagnostics, qui ont des évaluations, qui ont le soutien nécessaire et qui ont appris à être acceptés comme ils sont, puis à utiliser leurs forces, bien, ces enfants-là, quand ils vont vieillir, bien, ils vont aller sur le marché du travail. Puis, rendus sur le marché du travail, eux autres, ils n'auront pas passé leur vie à masquer. OK, ils vont probablement avoir eu beaucoup plus d'outils étant jeunes, puis ils vont avoir compris justement à départager les défis des forces. Mais, somme toute, les employeurs, ils doivent être prêts à ça.
Ça dépend encore s'ils ont eu des ressources, parce que des ressources, il n'y en a pas tant que ça.
Non, plus, c'est pas parfait, tu sais. Mais c'est quand même plus que le rien.
Oui, puis ça nous amènera même à parler dans un prochain épisode de cette notion de diagnostic qui est ultra complexe en soi, parce qu'on est dans une vision où on démédicalise, on veut ramener l'identité avant le diagnostic, mais en même temps, le diagnostic, c'est une pièce de casse-tête, comme Solène l'a nommé dans d'autres épisodes. Ça vient expliquer tellement de choses. Si je nous invite là un petit peu à ramener notre épisode, donc on vous l'a dit, le « ça paraît pas », prière d'éviter cette formulation face à un dévoilement. Ouais. Solène, est-ce que tu veux compléter, reformuler notre fin de cet épisode de « Ça paraît pas » ?
Oui, bien donc, je vais le répéter parce que c'est important. Ne dites pas à quelqu'un qui est neurodivergent que « ça paraît pas ». Mais surtout, restez ouvert face à la personne devant vous, restez humble, demandez-lui qu'est-ce qu'elle attend de vous, qu'est-ce qu'elle souhaite faire avec ce dévoilement qu'elle vous fait. Et puis, c'est dans le fond, c'est elle la meilleure experte, enfin, elle parce que c'est une personne, mais c'est la meilleure experte de ses besoins, puis de ses capacités, puis de ses défis, de tout finalement. Donc, restez à l'écoute et restez ouvert. Je me répète, mais c'est chaque fois important. Donc, sur ces belles paroles, j'ai terminé.
Donc, ça conclut notre superbe épisode. Merci beaucoup, mes chères neurodivertissantes. On se retrouve dans un prochain et bien, à bientôt aussi, vos auditeurs. Bye! Oui, merci.
À la prochaine! Merci!
Vous avez apprécié l'épisode? Vos animatrices ont eu du fun à vous le préparer et l'enregistrer. Pour les encourager, n'hésitez pas à parler du podcast à votre réseau, vos amis, vos collègues. Et si vous avez envie d'échanger, vous pouvez les trouver facilement sur la page Les Neurodivertissantes sur LinkedIn et sur Facebook.